Le journal intégral de Julien Green, un travail de vérité.
Dans le journal qui vient d'être publié seulement, que vous avez écrit quand vous aviez 19 ans, vous écriviez à propos de ce qu'est un écrivain, je trouve ça tellement beau. Et en plus, c'est ce que vous avez vécu, je crois.
Oui.
Il s'agit d'un homme qui voudrait dire la vérité et qui tremble.
Et qui tremble. Mais ça me paraît bien ce que vous dites là. Hein?
Mais oui.
Oui. Non. Oui.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Le vieux maître en 94, il a 94 ans, nous sommes 4 ans avant sa disparition. C'est un écrivain considérable, alors très considéré, pléiadisé de son vivant, membre de l'Académie française. Guillaume Faux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maître d'œuvre de cette édition bouquin. La collection bouquin faite d'ailleurs comme ça, c'est 40 ans. Vous connaissiez, bien sûr, vous êtes conservateur en chef à la BNF, responsable du service des manuscrits modernes. Vous connaissiez évidemment les 18 volumes publiés depuis 1938 jusqu'au-delà de sa mort par Julien Green. Le journal intégral, là, c'est la période 1940 seulement. Suivront deux ou trois autres volumes.
Oui, jusqu'à la fin.
Le journal intégral, par rapport au journal initial, c'est...
C'est environ 60% de textes supplémentaires. C'est un vrai inédit, une vraie entreprise de publication d'une masse inédite considérable.
L'héritier de Julien Green, Tristan de Lafont, qui a rendu possible cette édition, dit que le voici rendu, ce journal, à sa plénitude. Un écrivain considéré, un écrivain considérable, dont vous pouvez peut-être rappeler à qui ne l'a pas lu. Ils sont assez nombreux, ceux qui ne l'ont pas lu aujourd'hui. Son enfance.
Alors, Julien Green naît à Paris en 1900. Avec le siècle, dans une famille américaine installée à Paris. Il va passer son enfance entre l'appartement familial dans le 16e arrondissement, quelques vacances à Saint-Germain-en-Laye notamment.
Et l'appartement à Paris, pas loin d'ici, rue de Passy, c'est l'Amérique.
C'est ça, c'est une sorte de petite Amérique dans Paris. La présence de l'Amérique, la présence culturelle, linguistique de l'Amérique est tout à fait prégnante. Néanmoins, c'est en français que Julien Green créera son œuvre et c'est un élément très intéressant. Alors l'enfance, il la passe avec plusieurs sœurs. Il a plusieurs sœurs, dont une, Anne, qui jouera un rôle important puisque il partagera le quotidien de cette sœur jusqu'à la fin.
C'est elle qui met les fleurs dans le vase.
C'est aussi
qui
un
allume
écrivain.
Le feu et c'est aussi
et
un
c'est
écrivain.
Aussi une romancière à
une vie
succès,
confortable avec elle, oui. Distinguée.
Et puis le jeune Julien Green est un adolescent qui va traverser, connaître une sorte de crise mystique religieuse qui va l'amener à se convertir au catholicisme à la fin de l'adolescence. C'est phénomène intéressant. Il découvrira quelques mois après cette conversion que son père a eu la même démarche, que son père s'est aussi converti au catholicisme. Ils l'ont fait chacun de leur côté dans le secret de leur conscience.
Le premier livre qu'il publiera, qui aura du succès, il aura toujours beaucoup de succès. C'est un pamphlet sur les catholiques de France. Ils font le signe de croix et ils ne savent pas à quoi ils les engagent. Ils disent des prières et ils ne savent pas que ces prières leur parlent de leur condamnation. Sauf que Julien Green se retrouve dans une sorte de contradiction et son homosexualité se révèle de plus en plus quand il va faire ses études dans une université en Virginie.
C'est effectivement un moment très important. C'est quelques mois qu'il va passer en Virginie à l'université. Il est là-bas dans le pays de ses parents, fasciné par des paysages, par la lumière qui tombe sur ces paysages du sud profond des États-Unis et fasciné aussi, et au même titre, par des visages ou par des corps des jeunes gens qui l'entourent.
Et puis toutes ces conversations entre ces jeunes gens qui sont peut-être des amants et puis leur chambre dans laquelle il ne peut pas pénétrer, sauf que...
Après de longs mois de muette timidité, Julien ose frapper à la porte de Marc.
Presque aussitôt, la porte s'ouvrit toute grande. Marc était devant moi, si près que son épaule touchait presque la mienne. « Oui ?» dit-il. Je ne pus répondre. Il sourit et me dit d'entrer. La chambre était petite. Sa voix haute et claire avait toutes les intonations du sud qui m'étaient chères. Et je ne me lassais pas maintenant que cela m'était permis de regarder ce visage d'un brun tirant sur le rose et auquel les yeux d'un noir de charbon donnaient une splendeur magique. Me voyant interdit, il me parla de choses et d'autres et proposa de me faire entendre un air de guitare. Puis, penché sur cet instrument qu'il effleurait à peine des doigts, il se mit à chanter à mi-voix. Je me souviens qu'il avait ôté son veston et roulé les manches de sa chemise sur ses bras. Il était vigoureux comme un ange, si ces mots peuvent avoir un sens. Et comme un ange, il devait être capable de violentes colères. Cela, il le portait sur son visage. Son petit nez, aux ailes ouvertes, trahissait un tempérament batailleur. Au bout d'un quart d'heure, il me mit la main sur l'épaule et me dit qu'il lui fallait maintenant travailler. « Pourrais-je revenir ?» lui demandai-je. Il se mit à rire et serra ma main dans la sienne. « Tous les jours, » fit-il. Quand il eut refermé la porte de sa chambre, je me mis à courir le long de la galerie et, descendant les marches, gagnai la route qui menait dans la campagne. Je ne voulais pas rentrer chez moi, je voulais être seul avec mon étrange bonheur.
Ah, les visages. Alors, on a souvent dit à Greene, si vous étiez portraitiste, vous peindriez des visages. Et puis, il y a les jambes aussi. Alors,
les jambes.
Dans le journal, les jambes.
D'autres parties, effectivement, du corps humain.
Oui, entre la tête et les jambes. C'est assez cru, quand même. Hein.
Alors, le journal est effectivement très cru dans le récit, le relevé qui sont faits de ces rencontres sexuelles, qui arrive véritablement et qui s'accentue un petit peu plus tard dans la vie de Julien Greene. L'extrait que vous avez diffusé, c'est il a tout juste 20 ans, c'est un tout jeune homme. Sa vie sexuelle actée devient très importante au début de la trentaine.
Il faut toujours porter des masques, alors je m'abrite derrière des citations. Philippe Lançon, très bon compte-rendu dans Libération. « Quand il encule un homme », le verbe revient assez souvent, une partie de lui est ailleurs, quand il écrit qu'il l'encule, il est tout entier dans le verbe. Rien ne saurait mieux décrire un écrivain.
Mais je crois que Julien Greene, qui était un écrivain dans l'âme, était écrivain tout le temps, y compris lorsqu'il décrivait ses scènes très crues.
4 février 1935. À 4 heures, relus quelques passages de mon journal de 1928 à 1935. Une page prise au hasard, ça et là, me fait voir clairement que les 9/10 de ce journal sont occupés par des descriptions de plaisirs charnels. Il me semble toutefois que dans les volumes les plus récents, ces descriptions sont plus courtes et moins nombreuses. Elles sont souvent fort belles, par exemple celle de Paul dans le cahier 7. Je crois que dans le cahier 8 que j'achève en ce moment, on verra les indices d'un changement intérieur, bien que presque toutes les circonstances de ma vie extérieure restent les mêmes. Je suis souvent très sensuel, aussi sensuel qu'en 1928, mais par crise. Il y a maintenant des interruptions, d'assez longues périodes de calme. Comment dire autrement? La fièvre, l'agitation tombent parfois. Et alors ce qu'il y a de meilleur en moi essaie de reprendre le dessus. Dans ces moments-là, ces cahiers gris courent un assez grand danger. Mais j'aurais grand tort de les détruire, car ils représentent une expérience de la vie que bien des êtres n'ont pas connue. Ils pourront quelques jours instruire, peut-être servir. Ils contiennent aussi de nombreux renseignements qu'on ne trouvera sans doute pas ailleurs sur la vie littéraire.
Lecture par Eric Oswald. Tout à l'heure, c'était Pierre Vanek, Mazette. Je confonds la comparaison parce que Eric Oswald, il est de la maison. Est-ce que je dois détruire ces cahiers? La question s'est posée.
La question s'est posée. À plusieurs reprises dans le journal, Julien Greene parle du journal lui-même et s'interroge sur le sort qu'il doit réserver à ce journal. Il faut savoir que, alors ici nous sommes à la radio, nous ne pouvons pas voir des images de ces manuscrits, mais leur particularité est d'avoir été très 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 caviardés, découpés. Je ne suis pas très sûr, on peut émettre plusieurs hypothèses sur l'identité des personnes qui auraient pu faire ce caviardage, qui concerne surtout effectivement des passages sexuels. Mais l'hypothèse la plus probable est que c'est Julien Greene lui-même qui, à différents moments de sa réflexion sur le journal, a pu varier et considérer qu'il lui fallait détruire, supprimer certains passages compromettants.
Oui, mais enfin, au total, il réitère son refus de détruire. Il envisage même un moment, à l'époque de la République République de Weimar de confier le document à un centre de documentation sexologique à Berlin.
Ça c'est très intéressant parce que ce qui domine effectivement c'est sa volonté de préserver ce journal et de le transmettre et de le voir publié un jour. Alors pas de son vivant, ça c'est sûr, il donnera plusieurs consignes et des durées après sa mort pour la publication, mais sur la question de l'intérêt de le conserver et de le transmettre, il n'a plus varié par la suite. Et effectivement, il a cette remarque dans les années 30. Il dit, au fond, le lieu le plus approprié de destination de ces manuscrits, ça serait l'Institut Hirschfeld à Berlin.
Il a été bien inspiré de ne pas confier son journal, parce que oui. Le dit institut a été détruit par les jeunes nazis tout de suite après la prise de pouvoir par Hitler. Alors, il faut dire ça, parce que maintenant, on explique que Julien Green n'est pas un écrivain catholique, que ça n'intéresse que les seniors, mais que c'est un écrivain LGBT. Alors, dans tact. Mais on reviendra sur l'écrivain catholique un petit peu plus tard. Il fait lire son journal à son compagnon, qui s'appelle Robert de Saint-Jean.
Oui, Robert de Saint-Jean, journaliste, homme de lettres lui-même, qui rencontre Julien Green en 1924, si ma mémoire est bonne, et ça sera le compagnon d'une vie, c'est un compagnon, un amant, et un lecteur aussi du journal de Julien Green.
Ce qu'il y a de bon en moi, c'est lui. Enfin, il dit peut-être ça par convenance, parce que en même temps, un drôle de couple, parce que chacun cherche fortune ailleurs,
et ou, parfois ensemble,
ou ramène une bonne fortune à l'autre.
C'est ça. C'est une figure omniprésente, celle de Robert de Saint-Jean dans le journal de Julien Green, comme on s'y attend, puisque ça a été son compagnon, et qui reste, je trouve, en grande partie énigmatique. Il est omniprésent, chaque entrée quasiment du journal se termine par cette formule presque rituelle de Julien Green. « Mon Robert adoré, je t'adore. Mon Robert chéri, je t'aime. Je pense à toi tout le temps. »
C'est un signe de croix, quoi.
Oui, ou une sorte de gage donné à Robert de Saint-Jean qui lit le journal quelques minutes ou quelques heures plus tard. On sait que Robert de Saint-Jean a tenu lui-même un journal. On pourrait rêver d'en avoir connaissance un jour pour avoir l'autre pendant, l'autre partie de l'histoire. Mais c'est vrai qu'ils ont constitué un couple assez peu conventionnel, à la fois amants par intermittence, parfois amants ensemble, de plusieurs amants à la fois, se racontant leurs aventures sexuelles, rabattant effectivement des garçons les uns pour les autres.
Je ne vous dis pas le commentaire du journal La Croix, qui dit quand même c'est un peu étonnant, ces amours tarifés, ces amours partagés, chez un grand auteur métaphysique. Un des plus beaux textes de Green qu'on connaissait déjà, mais que vous reprenez, raconte le passage difficile en Espagne en juin 40 de Julien Green, qui, citoyen américain, peut passer sans trop d'encombre, et de Robert de Saint-Jean, qu'il tient à faire passer. Robert de Saint-Jean, il était très proche du gouvernement Reynaud, et il risque fort d'être inquiété par les Allemands.
Quitter Paris, c'était pour moi quelque chose de tragique. Je ne pouvais pas plaisanter sur ces choses-là, non, comme j'entendais qu'on plaisantait autour de moi. Mais j'ai fait ce que j'ai pu, et j'ai aidé Robert de Saint-Jean à passer. À un moment, c'était un peu difficile.
Parce que vous le cherchiez partout et il n'arrivait pas à passer aussi dans cette foule.
Oui, justement, c'était difficile. Mais heureusement, il avait les papiers nécessaires. Il travaillait pour le gouvernement et finalement, on l'a laissé passer.
On l'a laissé passer.
Oui. On l'a laissé passer.
Mais ça a été très juste.
Ça a été juste, mais c'était normal. C'était juste. C'était un peu difficile, mais juste.
Sur le tard, à 93 ans, l'Ellipse. Le journal, il l'avait avec lui
Alors, c'est compliqué de répondre. On sait que depuis le début des années 30, Julien Green est très lucide sur l'évolution historique, politique, et qu'il voit la guerre venir de façon inéluctable. Et
c'est un des grands intérêts des passages inédits.
Oui. Absolument.
Et la guerre va troubler notre bonheur à Robert et à moi.
Oui, c'est parmi les passages les plus pathétiques, les plus bouleversants du journal. Et en tout cas, il songe très vite à mettre en sécurité ses archives, ses manuscrits, ses papiers. On sait qu'il envoie une ou deux malles avant le début de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis chez une de ses cousines pour mettre à l'abri ses manuscrits. On sait qu'il mettra à l'abri sa bibliothèque à Paris, qu'il retrouvera à son retour à Paris en 1946. On sait qu'il détruit aussi certains papiers, certains journaux et récits de voyage en Europe centrale dans les années 30, sans doute compromettant du point de vue des confidences et de la vie privée qui est évoquée et sexuelle dans ces journaux-là. On sait aussi qu'il fait traverser la frontière espagnole, puis entre l'Espagne et le Portugal, à quelques manuscrits, à quelques papiers qu'il emportera avec lui sur le bateau aux États-Unis.
Parce qu'il faut garder de la discrétion. C'est un travail de vérité, mais il ne veut pas mettre non plus en cause trop les vivants.
Il ne veut blesser personne. Il veut respecter la vie privée des personnes qu'il cite ou qu'il décrit dans le journal, et il réserve vraiment l'apparition de ce journal pour la postérité, ce qui est, je pense, pour l'écrivain qu'il est aussi, une façon de se réserver la liberté absolue d'écrire chaque soir devant son cahier ce que bon lui semble.
Comment écrire ce qu'on sait qu'on ne publiera pas ? Il est très interrogatif devant Max Jacob, un grand poète homosexuel lui aussi, qui avait pris l'habitude d'aller dans le cœur des églises pour faire une confession publique tous les jours à haute voix devant tout le monde. Alors, il a du mal à comprendre ça.
Il faut dire que au milieu des années 30, pour la période décrite dans ce premier volume, Julien Green est en rupture avec la religion. Il a perdu la foi, il y reviendra après la Seconde Guerre mondiale, ce qui explique son incompréhension de certains aspects religieux ou mystiques chez d'autres.
Guillaume Faux, alors le journal va être conservé, et qu'est-ce qui va advenir de lui après la mort de Green ? Green dit... Au fond, faudrait le confier à un ennemi, parce que avec toutes les bombes que contient ce journal, un ennemi en ferait le meilleur usage et ne le détruirait pas, lui.
Oui, le meilleur ennemi peut-être de Julien Green, ses éditeurs aujourd'hui. Mais en fait, ce journal, il l'a transporté comme le reste de ses manuscrits en Suisse, après la Seconde Guerre mondiale, régulièrement, pendant
toutes
ces années, alimenté
ce compte journalistique en Suisse.
Fond,
oui, mais alors quand il meurt.
Alors, quand il meurt, il a un héritier qui est son fils adoptif, Éric Green, Éric Jourdan de son nom de plume, qui devient son héritier, qui gère l'œuvre. Et Éric Green, lui-même, à sa mort, avait organisé sa succession et désigné un ayant droit, qui est Tristan de Lafont, qui a participé à ce travail d'édition du texte.
Alors, pour payer les droits de succession, il a fait une dation.
Alors, il y a
à l'État, et c'est comme ça que le journal est chez... C'est ça. Vous, à la BNF.
Oui, en cours une procédure de dation en paiement de droits de succession qui va permettre de faire rentrer ces manuscrits dans les collections nationales.
Tristan de Lafont fait une belle préface à l'édition dans la collection Bouquins. Et puis, c'est un juriste. C'est drôle, c'est le premier président de la cour d'appel de Montpellier. Les chemins de Julien Green sont inattendus. Des chemins de vie où la musique a toujours été mêlée à l'existence quotidienne.
Die Welt, das Sonnenhaus, bricht nur in Hörnern wieder aus und sucht durch Hass und Neid des Satans Bild an sich zu tragen. Ihr Mund ist voller Rattergift, der oft die Unschuld tödlich trifft und will allein von Rache sagen. Gerechter Gott, wie weit ist doch der Mensch von dir entfernet? Du liebst, jedoch sein Mund macht Flug und Feindschaft kund und will den Nächsten nur mit Füßen treten. Ach, dieser Schuld, ich will ihn so.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Le journal intégral de Julien Green chez Bouquin, un travail de vérité. On entendait Alfred Deller dans la cantate BWV 170. Alors, quand il parle de Bach, il dit c'est chez la princesse de Polignac, c'était formidable. Chacun sait que la princesse de Polignac habitait à côté du Trocadéro et qu'au Trocadéro, ça chacun ne le sait peut-être pas, on pouvait rencontrer des jeunes gens à qui on pouvait donner la pièce pour qu'ils se déboutonnent.
Il y avait ce qui n'existe plus aujourd'hui dans Paris, ces pissotières, et notamment une grande pissotière au Trocadéro, qui n'est pas véritablement une révélation du journal de Julien Green, puisqu'il en parlait, si je ne me trompe, déjà dans son autobiographie. Il faisait allusion à ces rencontres de passage, à ces rencontres
de
fugitifs.
Parce qu'il n'a jamais dissimulé qu'il était homosexuel. Non. Tandis que, juste au-dessus de la pissotière du Trocadéro, il y avait le bureau de Jacques de la Crotelle. Et alors, Julien Green dit, c'est quand même curieux, cet écrivain qui fait un mariage si convenable, si public, et qui doit ne pas beaucoup travailler à son bureau quand il voit les manèges autour de la pissotière.
Oui.
Il n'aimait pas cette duplicité-là.
Il n'aimait pas cette duplicité-là, mais je crois que le journal parfois fait apparaître des jugements, parfois de la cruauté, peut-être de la méchanceté, de la dureté pour ses contemporains, notamment écrivains. Mais il y a aussi un passage plus juste, plus compréhensif. Il faut juger et prendre ce journal, je pense, dans toute son amplitude chronologique, qui est celle de toute une vie, avec le droit à l'évolution, aux contradictions, aux revirements, et à toute la complexité des jugements qu'un homme peut porter sur un autre.
Mais la contradiction, on peut la connaître chaque jour, parce que ce qui excite, au fond, Julien Green, c'est de passer du tempérament convenu qu'il affiche à l'extérieur, avec peut-être un masque, la bergère devant le feu dans l'âtre, et puis, ensuite, changement de pied, soudain, ça bascule.
Oui, il a ce refus, ce rejet de la duplicité, effectivement, travail de vérité. Je pense aussi, dans ce journal, travail d'invention de soi, en fait, de Julien Green, qui consigne toutes ses aventures sexuelles pour voir un petit peu ce qu'il peut en faire, comment les intégrer, comment gérer.
Au fond, pour les garder en mémoire.
Pour les consigner, les garder
en
mémoire.
Parce qu'il y en a tant.
Il y en a tant.
Elles sont toutes un peu semblables. Il faisait des photos aussi.
Oui, il a photographié effectivement les fesses de certains de ses amants, où il demandait des photographies. Parfois, je pense qu'il a voulu aussi sauver du temps qui passe, effectivement, ces moments très, très fugaces.
Un des charmes de l'homosexualité, c'est qu'elle permet de passer d'un milieu à l'autre. Enfin, je parle de l'homosexualité à l'époque de Julien Green. Aujourd'hui, le conformisme règne peut-être davantage. Donc, il va d'un bourgeois, dont il faut faire une citation ou deux, le trou du cul sans l'eau de Cologne, au laitier de la rue de Passy, ou à un ouvrier de Belleville.
Au marin, à l'ouvrier, au militaire. Il y a dans ce journal tout une cartographie, un relevé des lieux de la sociabilité ou de drague homosexuelle à l'époque, et ces lieux qui sont les pissotières, les bains publics, les parcs, les transports en commun, les bordels ou les hôtels spécialisés permettent à toutes ces catégories sociales, à toutes ces classes sociales de se mélanger, de se rencontrer en tout cas.
Puis il y a l'exaltation du danger. Encore qu'il y a un danger dont il a une phobie. Quand il parle dans la version initiale officielle du journal de la maladie, il faut entendre syphilis.
14 mars 1934. De nouveau cette angoisse de la maladie. Qui n'a pas souffert de cette espèce particulière de phobie ne saurait me juger. Je sortais de chez Plon où j'avais été signé quelques exemplaires de mon livre. La terreur m'a saisi tout à coup et m'a accompagné jusque chez moi. En descendant la rue Garancière, l'idée m'est venue d'entrer à Saint-Sulpice, et là, dans cette église, je suis allé me cacher à l'endroit le plus obscur, devant la chapelle de la Sainte Vierge. J'ai pensé, en m'agenouillant, je ne viens pas faire des promesses que je ne pourrais pas tenir. Il y a des choses auxquelles je ne puis renoncer. Je voudrais simplement recevoir la force. À aucun être humain qui demande une grâce aussi légitime, le ciel ne peut opposer un refus. J'ai récité ma prière de mon mieux et suis sorti.
Klossmann est venu me voir à 5 heures. Il me parle des difficultés qu'il a à trouver des garçons en Hollande. Mais dit-il, il y a un quartier chaud à Amsterdam, près de la gare, dans la rue parallèle au Damrak. Hier, dîner chez Franck avec Robert. Il y a là Tad Lovett, amant de Franck, assez beau garçon américain. Figure trop pleine, mais les traits ne sont pas déplaisants et le corps, grand et vigoureux, paraît admirablement fait. Robert a l'impression qu'il doit se faire baiser. L'appartement est rue de Verneuil, fort joli. Vieille boiserie, beau parquet et cheminée admirable. Salon moderne, en paille écrasée. Cela fait une pièce dorée, nue, meublée seulement de fauteuils de cuir rose et d'un vaste canapé de la même matière. Franck parle abondamment de lui et d'autres. Lovette nous raconte les soirées Bernstein, les dîners de tapette, hâtivement expédiés par le maître de maison qui permet à peine qu'on happe son dessert et veut qu'on passe au salon et que les bougreries commencent au plus tôt. Court d'un sexe à l'autre en kimono chinois. Il lui faut quelquefois 5 garçons pour l'amener à l'orgasme. Franck et Tad me prêtent les 120 journées de Sodome et un livre de Lorenz. Beaucoup parlaient de garçons avec eux.
Franck, c'est Jean-Michel Franck, le grand décorateur, et c'est Franck Oliver qui disait, ça c'est la version inédite, la deuxième partie, la version initiale avec Eric Oswald, c'est le texte tel qu'il est paru dans sa première édition. Et tout ça, c'est le même jour. Il faut pas rire des prémices de la deuxième conversion qui s'annonce.
Oui, il n'y a pas véritablement de solution de continuité. C'est une évolution très insidieuse, très profonde que Julien Green va connaître au fil de ses années 30, 40 et 50, qui va l'amener à revenir à la foi et à la religion au début des années 50, mais ses préoccupations métaphysiques, religieuses, sont là dès les années 30, alors même qu'il a cette vie sexuelle très, très fréquente.
C'est quelqu'un qui déteste les livres de piété, et alors son journal n'en est pas un, mais sa conversion elle est fondée sur une expérience de l'amour physique vécue jusqu'au bout, de l'amour avec Robert de Saint-Jean aussi, mais sur d'autres expériences. Parce qu'il lit Freud, Ernest Renan.
Absolument, il apprend l'hébreu dans les années 30 pour lire la Bible, voilà, dans le texte hébreu, donc il va parvenir à une connaissance très précise, très pointue des questions théologiques. Et le journal, pour les quelques sondages que j'en ai fait dans les manuscrits des années 50-60, montre l'immense culture théologique de Julien Green dans la deuxième partie de sa vie, qui va se trouver dialoguer avec de grands théologiens, de grands confesseurs, de grands hommes de religion sur un pied d'égalité.
Ouf, vous avez annoncé d'autres volumes, mais alors on aura l'index
à la fin.
Qu'au dernier volume.
Un index général des noms.
C'est pour nous forcer à lire dans le détail.
Un bon truc d'éditeur.
Ce qui est bien avec cet auteur métaphysique, c'est qu'il cherche à convertir personne. Ou, si je voulais convertir quelqu'un, je ne l'emmènerais pas à la messe dans les églises, mais dans les boîtes. Parce qu'il n'y a rien de plus triste.
Oui, non, il n'y a pas de prosélytisme dans ce journal de Julien Green, ni dans son œuvre publique publiée de son vivant.
Là où il y a le démon, il y a le Christ, disait son vieil ami, entre guillemets, François Mauriac. Tout à l'heure, il sera question des polyamoureux. Est-ce que c'est dans la continuité, vous parlez de continuité de notre émission, chez Fabrice Drouel, Affaires sensibles, Julien Dumont, Arthur Le Breton à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation, Franck Olivard pour la préparation.